Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. On a encore beaucoup de choses à se raconter ce soir. À 18h15, les uns saluent son énergie, les autres s'agacent de son goût trop marqué pour la com. Marlène Schiappa sera notre invitée d'actualité. À 18h30, Philippe Cavrivière, suivi de Mimi Hegel, qui publie un guide de survie d'une féministe en couple hétéro, ou comment aborder un vrai sujet sans se coller une migraine et même en souriant. Et puis, bien sûr, à 19h15, ce sera le débat, la controverse avec le monde tel qu'il est. Ce soir, autour de la table et dans ce studio, Éric Brunet, Elsa Grangier, Pablo Pio Vivien et Isabelle Lacéa. Mais on attaque avec vous, Amandine Bégaud, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Voici les titres de l'actualité de ce mardi 27 avril.
Et à la une ce soir, les terrasses bientôt payantes pour les restaurateurs à Paris. La mesure, on l'imagine, est loin de faire l'unanimité après 6 mois de fermeture. Dans ce journal également, le casse-tête de la vaccination. Il y a des doses, des créneaux et pourtant, le ministre de la Santé refuse pour l'instant d'élargir les critères. Et puis on ira à Barcelone. Le concert test organisé fin mars, c'est une réussite. 5000 spectateurs et un mois plus tard, aucun signe de contagion.
Ah ben ça, c'est une bonne nouvelle. La météo, Peggy, c'est moins bonne nouvelle.
Oui.
Alors hier, au nord, on crânait un peu de « ouais, nous, il fait beau, au sud, c'est pas terrible. Demain, c'est nuage pour tout le monde. »
Exactement. Même si, allez, le soleil va un petit peu résister au nord de la Loire le matin, mais ça va pas durer. Les nuages vont vite arriver. Ce sera déjà très nuageux sur toute la partie sud avec des averses, tout comme sur les bords de Manche. Et donc, en journée, vous l'avez compris, des nuages pour tout le monde, quelques gouttes possibles, des averses plus fréquentes, parfois orageuses sur l'est du pays. Et les éclaircies reviendront tout de même par la façade atlantique. Les températures, ça restera frais le matin, on se couvre. Et les maximales seront comprises entre 13 et 21 degrés.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et d'abord donc la colère des restaurateurs parisiens. Ils ont appris aujourd'hui qu'ils allaient devoir payer leurs terrasses Covid. Ces terrasses éphémères installées en mai dernier lors du premier déconfinement. Bonsoir Alexandre de Saint-Aignan. C'est quoi cette histoire ?
Bonsoir Amandine. Les terrasses éphémères, elles avaient fleuri sur les places de stationnement de la capitale à la sortie du premier confinement. 9800 autorisations au total, mais la mairie a décidé de changer la règle du jeu. À partir du mois de juillet, ceux qui voudront garder leur terrasse devront s'acquitter d'une redevance, mais la pilule est difficile à avaler pour Valérie, propriétaire du Patio Opéra dans le 9e, au micro RTL de Sébastien Rouxel.
Je pense que c'est beaucoup trop tôt, c'est très très court, ce serait absolument impensable, ce serait vraiment quelque chose qui nous mettrait encore plus par terre. On a déjà au moins 2 genoux par terre, si vous voulez, il faut pas nous pousser.
Mais pour l'adjointe à la mairie de Paris en charge du commerce, Olivia Polski, c'est d'abord une question juridique.
À partir du moment où c'est une autorisation, comme il y a une occupation commerciale du domaine public, c'est obligatoire, voilà. Mais on peut faire des exonérations, donc c'est des sujets qu'on va voir avec eux.
Voilà, il y aura peut-être des exonérations. Les tarifs n'ont pas encore été fixés. Ce sera l'objet d'une longue négociation. En moyenne, à Paris, les restaurateurs payent 450 euros par an pour occuper leur terrasse. C'est moins de 40 euros par mois. Des frais qu'ils ne payaient plus depuis 16 mois. Un manque à gagner de 34 millions d'euros pour la capitale.
Alexandre de Saint-Aignan avec Sébastien Rouxel. Paris, ou comme dans le reste de l'Île-de-France, la part du variant sud-africain progresse. Et c'est ce qu'a indiqué tout à l'heure Olivier Véran, le ministre de la Santé, s'est rendu à l'Agence régionale de santé. Il en a profité pour faire le point sur la vaccination. Pas question, dit-il, pour l'instant, d'ouvrir à d'autres cibles.
Il y a encore 4,3 millions de Français qui relèvent de la vaccination, qui n'ont pas encore été vaccinés. Notre objectif conjoint, c'est de protéger en priorité les personnes qui sont les plus fragiles. Et ce n'est pas parce qu'une commune aurait vacciné 70% ou 80% des personnes âgées de sa commune qu'elle doit commencer à proposer la vaccination des gens qui ont des risques beaucoup plus faibles de faire des formes graves. Ce que nous voulons, c'est donner la possibilité à chacune et à chacun de se faire vacciner par priorisation de tranche d'âge. Donc nous devons vraiment prioriser et protéger les plus fragiles.
Bonsoir Agathe Landais.
Bonsoir.
C'est vous qui avez suivi aujourd'hui Olivier Véran. On n'ouvre pas d'autres publics, dit le ministre, et pourtant... Et il l'a reconnu, hein, il y a des rendez-vous disponibles, il y a des doses, c'est quoi le problème ?
Alors d'abord, le ministère de la Santé explique que c'est normal qu'il y ait autant de rendez-vous vacants dans les centres cette semaine, notamment car le laboratoire Pfizer a augmenté ses livraisons en Europe. La France a commencé, dès le début de la semaine, à recevoir des centaines de milliers de doses supplémentaires. Plus de vaccins, cela veut dire que d'un coup, un très grand nombre de rendez-vous ont été ouverts. Ensuite, Olivier Véran rappelle qu'on est très très loin d'avoir vacciné toutes les personnes qui y ont droit aujourd'hui. Il reste reste encore plus de 4 millions de Français de plus de 55 ans à vacciner. Pas question donc pour le moment d'élargir la cible. La priorité reste les plus fragiles à cause de leur âge ou de leur comorbidité. Mais le ministre de la Santé rappelle que l'autre principe, c'est celui de surtout ne pas perdre de doses. Les centres ont donc le droit de vacciner en dehors de la cible, notamment les plus jeunes, si en fin de journée, leurs doses n'ont pas trouvé preneur.
Merci à vous, Agathe Landais. Pendant ce temps, en ce moment même, Emmanuel Macron s'entretient à nouveau avec des maires, échange par visioconférence pour évoquer la gestion de la crise sanitaire, mais aussi, Amandine, les perspectives de réouverture.
Et le chef de l'État assistera jeudi aux obsèques de cette fonctionnaire de police tuée dans l'attentat de Rambouillet. C'est ce qu'on a appris tout à l'heure, William Galibert.
Oui, le président avait déjà rendu visite à sa famille samedi au lendemain de l'attentat et il sera donc présent après-demain pour ses obsèques. Auront-elles lieu à Saint-Léger en Yvelines, la commune où Stéphanie Monfermé résidait avec son mari et avec ses deux filles? L'Élysée ne veut pas le préciser pour respecter l'intimité et le deuil de ses proches. Mais après cette cérémonie privée, c'est un autre hommage qui sera organisé. Hommage national, cette fois à Rambouillet. Il aura lieu vendredi matin à 10h30. Il sera présidé par Jean Castex. Le Premier ministre prendra la parole à l'issue de cette cérémonie. Hommage au parcours de cette fonctionnaire. Rappel de la lutte contre le terrorisme islamiste. Des proches, des collègues de la victime devraient notamment y participer, tout comme de très nombreux élus. Gérard Larcher, le président du Sénat, Valérie Pécresse, la patronne de la région Île-de-France, ont déjà confirmé leur présence sur place vendredi.
William Galibert du service politique d'RTL. Du côté de l'enquête, sachez que deux personnes sont ce soir toujours en garde à vue. On a par ailleurs appris, et c'est une info RTL, que des images pornographiques et pédopornographiques avaient été retrouvées dans l'un des téléphones portables de l'assaillant.
18h06, l'actualité internationale nous emmène d'abord au Tchad ce soir, une semaine après la mort au combat du président Idriss Déby. 5 personnes au moins ont été tuées aujourd'hui.
Tuées lors de manifestations contre la junte militaire qui a pris le pouvoir. Bonsoir Christophe Decroix.
Bonsoir.
Et ces manifestants dénoncent aussi le récent soutien apporté par la France.
Oui, les manifestations ont commencé très tôt ce matin dans la capitale et dans le sud du pays, essentiellement des jeunes qui demandent le retour à un pouvoir civil. Depuis la mort au combat du président Déby, c'est son fils qui s'est emparé du pouvoir. Et les manifestants dénoncent un coup d'État institutionnel et une succession dynastique. Mais lors des obsèques du président Déby, Emmanuel Macron a été le seul chef d'État occidental à faire le voyage. Une attitude condamnée par les manifestants, explique sur place le journaliste Na Ideyam Sabre.
Pendant la cérémonie des obsèques en Yémen ici, le président Macron avait dit qu'il soutenait la transition. Donc c'est ce qui aussi a été la colère d'une partie des jeunes qui ont manifesté. Ils ont d'ailleurs brûlé le symbole de la France qui est son drapeau.
Des stations totales ont également été prises à partie. Ce soutien de Paris, qui veut avant tout la stabilité du Tchad pour poursuivre sa lutte contre les djihadistes, a été interprété comme un soutien à la junte militaire menée par le fils du président Déby. Aujourd'hui, l'Élysée a d'ailleurs publié un communiqué pour tenter de s'en démarquer en condamnant la répression des manifestations.
Christophe Decroix, chef du service étranger de RTL, merci.
On marque une petite pause et dans un instant, il y a du foot. Et quel foot, hein ? Il y a Real Chelsea ce soir avant PSG Manchester City. Demain, ce sont les demi-finales de Ligue des Champions, s'il vous plaît.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h08, la suite du journal, avec donc ce soir le retour de la Ligue des Champions de football. Première demi-finale, aller, le Real Madrid affronte Chelsea.
Et demain soir, ce sera au tour du PSG face à Manchester City. Bonsoir Philippe Sanfourche.
Bonsoir.
Événement avant l'événement. On a vu Neymar aujourd'hui en conférence de presse. Ça faisait quand même 2 ans et demi que ça n'était pas arrivé.
Eh oui, preuve que c'est un grand match. Preuve qu'il est là, surtout. Hein, pas blessé, pas suspendu, pas désireux de partir. Non, un Neymar déterminé, casquette du club vissée sur la tête. Prêt pour le sprint final.
Je me sens bien, je me sens heureux. Je vais tout faire pour porter très haut les couleurs du PSG demain et enclencher la qualification pour la finale.
Alors, pas de grande annonce sur sa prolongation de contrat, pourtant imminente, mais Neymar s'inscrit dans l'avenir et assume désormais le passé, les blessures et les rendez-vous manqués.
On sait tous que j'ai eu des difficultés, je les ai surmontées grâce au travail, en restant un grand professionnel malgré ce que disent les mauvaises langues. On a été finaliste l'an passé, cette saison on a battu le Bayern et nous voilà en demi-finale. Je me sens mieux que jamais, bien dans ma peau, on va tout faire pour aller au bout.
Avec son ami et compère Kylian Mbappé, pas de guerre intestine ni rêve prématuré de Ballon d'Or. Il l'assure, sa seule obsession, offrir une première Ligue des Champions à Paris, 6 ans après l'avoir remportée avec le Barça.
C'est beau le foot quand c'est apaisé comme ça. Hein,
c'est rare hein, avant un grand match. Hein,
on verra après le match hein, comment ça se passera, c'est toujours pareil. Merci
les deux
vous,
matchs d'ailleurs.
Philippe Sanfourche. La bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et malgré le Covid, figurez-vous qu'on peut assister à des concerts en toute sécurité. C'est ce qui ressort du test Grandeur Nature organisé fin mars à Barcelone, Aurélie Chamrois.
L'expérience est un succès, selon l'équipe médicale en charge de l'essai clinique. Le cancer n'a eu aucun impact sur la propagation du virus. Joseph Maria Libré est infectiologue.
L'analyse des résultats indique qu'un concert dans un endroit fermé auquel assistent 5000 personnes qui dansent, qui se prennent dans les bras, en ayant passé un test avant, en portant un masque et avec une bonne ventilation, est une activité sûre.
Des 5000 personnes présentes, seules 6 ont été détectées positives au Covid-19 dans les deux semaines suivant le concert et au moins 4 d'entre elles n'ont pas été contaminés durant l'événement. Un taux d'incidence extrêmement faible donc et une expérience encourageante, même si le chemin est encore long, selon l'un des organisateurs, Jordi Herreruela.
Le dispositif est encore trop complexe et trop coûteux, mais nous allons continuer à travailler pour le rendre viable. Mais on peut déjà dire qu'il y a de la lumière au bout du tunnel.
En Espagne, les organisateurs d'événements, mais également les gérants de discothèques, espèrent pouvoir appliquer ce nouveau protocole sanitaire dès les prochains mois.
Aurélie Chamerois, Barcelone. Pour RTL.
Il y en aura visiblement en France mois prochain, mois de mai. On ne sait pas encore très bien. Il dit qu'il y aurait peut-être Indochine, tout ça. Mais voilà, ça se prépare. Vous sentez le soleil qui arrive ou pas? Eh bien, méfiez-vous, rien n'est gagné. Merci à vous.
Vous êtes horrible.
À tout à l'heure, Amandine. Elle est la ministre de la citoyenneté, pardon. Toujours très engagée sur tous les sujets, disent ses partisans. Elle est surtout la ministre du buzz permanent, répond de ses détracteurs. Marlène Schiappa est l'invité d'RTL Soir tout de suite.
RTL Soir, Thomas Otto. RTL Soir, Thomas Otto.
Elle est la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la citoyenneté. Elle est aussi depuis ce matin tête de liste En Marche à Paris pour les prochaines élections régionales. Marlène Schiappa est donc l'invitée d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Marlène.
Bonsoir.
Schiappa.
Merci.
Être ou ne pas être citoyen, il y a visiblement de plus en plus de fêtes clandestines en plein air parfois, comme celle spectaculaire des Buttes Chaumont à Paris ce week-end. Il y en a aussi eu en Ille-et-Vilaine, il y en a eu du côté de Lyon. Combien de PV ont été dressés ces derniers jours pour ce genre d'opération?
Alors d'abord, je veux commencer par un appel. Je veux commencer en disant que c'est évidemment une attitude irresponsable que de se réunir de cette manière en dehors des gestes barrières. Et surtout, au-delà du nombre de PV, je ne sais pas le nombre de PV exact des derniers jours sous la main, mais au-delà du nombre de PV, je veux vraiment lancer un appel à la responsabilité et à se tester. Si des personnes qui ont participé notamment à la fête au Buttes Chaumont nous entendent, je les invite à aller se faire dépister et à s'isoler pour respecter les mesures barrières et ne pas propager davantage le virus, puisque c'est bien l'objet des mesures sanitaires.
Ça veut dire que les consignes que vous donnez ne sont pas à la tolérance, même s'il y a un ras-le-bol général, mais plutôt à la fermeté sur ce genre d'opération?
Les consignes, elles sont très simples. Les consignes, c'est faire en sorte de respecter les mesures sanitaires. Vous savez, moi, il y a quelques jours, j'ai reçu le collectif Tenir ta main avec des personnes qui ont perdu un parent pendant la période, pendant les vagues, les premières vagues notamment de Covid-19, et qui m'ont raconté des choses glaçantes sur le deuil terrible dans ces conditions quand on a à faire face à la perte d'un proche du Covid. Et donc je pense que chacun est tout à fait conscient de la gravité de la situation qui perdure encore aujourd'hui. Respecter les mesures sanitaires, c'est pas faire plaisir au gouvernement ou faire plaisir à l'autorité, c'est simplement se protéger et protéger les siens et ses proches.
Vous décrivez avec justesse la gravité de la situation, mais dans ce contexte-là, est-il raisonnable d'envisager un déconfinement? On est repassé au-dessus des 6000 patients en réanimation, il y a eu 400 morts hier encore. L'an dernier, à titre de comparaison, quand on a déconfiné au mois de mai, on en était à 2700 personnes en réa. Est-ce qu'il n'y a pas là une prise de risque inconsidérée? Est-ce que c'est vraiment le moment d'envisager un déconfinement mi-mai?
Alors d'abord, il y a une vraie différence. La différence, c'est la vaccination. Et on voit bien que la campagne de vaccination, elle s'accélère. J'étais au centre de vaccination, au vaccinodrome, comme on dit maintenant, du Stade de France en Seine-Saint-Denis vendredi dernier. Et j'ai pu voir qu'il y avait un nombre de personnes colossales venues pour se faire vacciner.
Oui, mais la réalité clinique aujourd'hui, c'est que les lits de réa sont beaucoup plus pleins. Il y a deux fois plus de personnes en réanimation que l'an dernier à même date.
Bien sûr, et c'est pourquoi on demande à chacun de respecter les mesures sanitaires. Et vous savez bien que tout est progressif dans ce qui a été annoncé par le Premier ministre, par le ministre de la Santé. Il y a des étapes, le 3 mai, mi-mai, et puis très progressivement jusqu'à l'été, pour réouvrir peu à peu, notamment les lieux de plein air, dans lesquels il est désormais scientifiquement prouvé qu'il y a moins de contamination.
On ne prend pas là les décisions qui vont nous pourrir l'été? Il n'y a pas un risque?
Écoutez, vous savez, quand on ferme, on nous dit « il ne faut pas fermer, c'est scandaleux ». Quand on propose de rouvrir partiellement, « il ne faut pas rouvrir, c'est scandaleux ». Je crois qu'à un moment, il y a des décisions qui doivent être prises en responsabilité. C'est ce que fait le gouvernement. Moi, j'ai toute confiance dans le Premier ministre et le ministre de la Santé pour prendre les bonnes décisions au bon moment, au regard des informations dont nous disposons.
Emmanuel Macron, hier, a trouvé que 19h pour le couvre-feu, ça faisait un peu tôt. Qu'est-ce qui est dans les tuyaux? C'est 20h, c'est 21h, c'est après-dîner?
Alors, je suis par définition pas là pour vous dire ce qui serait dans les tuyaux ou pas dans les tuyaux. Il y a un travail interministériel ministériel pour essayer de déterminer la meilleure horaire. Je crois que pour tout le monde, c'est difficile de respecter ces mesures sanitaires. On avait beaucoup d'enfants contents de reprendre le chemin de l'école hier. Et je veux adresser un message de salut et de soutien aux enseignants qui ont repris le chemin des établissements scolaires. Et je crois que c'est ça qui est important.
Mais ça, c'est objectif. La semaine prochaine, changer l'heure du couvre-feu, c'est plutôt mi-mai. C'est juste pour qu'on ait une idée du calendrier.
J'ai pas d'informations à communiquer sur ce sujet-là.
Depuis 10 jours maintenant, les policiers et les gendarmes font partie des professions prioritaires pour se faire vacciner. Combien l'ont déjà fait? Est-ce que vous le savez? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils y vont, les plus de 55
ans? Oui, on voit qu'il y a un vrai engouement pour la vaccination, à la fois chez ces professions-là, mais de façon générale. Comme je vous le disais, dans les différents centres de vaccination dans lesquels j'ai pu me rendre avec le Premier ministre, en Corse il y a quelques semaines ou encore en Seine-Saint-Denis cette semaine, on voit qu'il y a même des appels de personnes plus jeunes qui ne sont pas directement dans les critères de vaccination et qui veulent absolument prendre part à cette campagne, se faire vacciner. Et moi, je trouve ça très positif. L'actualité va très vite et une actualité chasse l'autre. Il y a encore quelques mois seulement, le débat, c'était est-ce que les Français seront d'accord pour accepter le principe de vaccination. On voit que maintenant, c'est un débat qui est derrière nous et maintenant, les gens ont envie de se faire vacciner.
Et est-ce qu'il faut accélérer sur les personnes qui ont le droit de se faire vacciner? On sait qu'il y a 230 000 créneaux vacants, comme on dit aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas changer les critères d'âge, les critères de vaccination?
Moi, je pense qu'il faut être très pragmatique dans la manière dont se fait la vaccination. Il y a beaucoup de centres qui sont très bien organisés pour cela. Le centre du Stade de France que j'évoquais tout à l'heure, il y a vraiment un travail partenarial entre la Croix-Rouge, l'ARS, les élus locaux, l'ensemble des parties prenantes, les pompiers qui prennent part à la vaccination. Il y a des logiciels qui font que lorsque vous avez des créneaux vides pour des personnes qui ont annulé ou qui ne se présentent pas, vous avez toujours une autre personne à rappeler qui puisse venir pour prendre ce créneau.
Mais vous dites qu'il ne faut pas changer les règles d'âge aujourd'hui. Ce n'est pas le moment encore.
Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que là, il y a une accélération de cette campagne de vaccination avec les plus fragiles. On l'a ouvert effectivement à des professions, les policiers, les soignants précédemment, les enseignants ensuite. Et je crois que c'est cette campagne de vaccination qui doit être suivi avec à terme un objectif que l'ensemble des adultes qui le souhaitent puissent être vaccinés avant la fin de l'été.
On en vient à la politique. Vous êtes donc officiellement candidate à Paris pour les régionales du mois de juin. Il y a 4 mois, le 18 janvier, vous disiez ceci au Figaro. Il faut continuer notre travail de renouvellement de la vie politique. C'est pour cette raison d'ailleurs que je ne serai pas candidate aux régionales. Je préfère laisser des places pour des talents qui seront nos renforts demain. Oui. Alors certes, 4 mois en politique, c'est un siècle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, Marlène Schiappavari?
Non, d'abord, c'est très féminin. C'est ce qu'on appelle l'autocensure. De se dire je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Première chose. Deuxième chose, pour ce qui concerne les nouveaux talents, vous aurez observé que nous avons par exemple Prisca Thévenot qui a été investie en Seine-Saint-Denis.
Non, mais ça d'accord, mais pourquoi vous dites il y a 4 mois, j'irai pas, c'est pas ma place, alors, et aujourd'hui vous y allez?
Je vous réponds sur la deuxième partie, là je vous dis sur les nouveaux talents, parce que c'est primordial pour moi de faire émerger des nouveaux talents dans la politique. En ce qui me concerne, pour tout vous dire, je donnais un coup de main à Laurent Saint-Martin sur sa campagne en Ile-de-France, et nous recevions lui et moi beaucoup de textos de marcheurs, de militants de terrain, disant on aimerait bien que ce soit Marlène qui conduise notre liste à Paris. Et au final, on s'est dit effectivement, pourquoi pas. Et donc je me suis enthousiasmée pour cela, et j'ai la grande joie de conduire en binôme avec Julien Bargeton, qui était un adjoint de Bertrand Delanoë, puis d'Anne Hidalgo, qui a rejoint comme moi Emmanuel Macron en 2016. Nous conduisons ensemble une liste de rassemblement avec aussi le MoDem, Agir.
Donc vous êtes contente d'avoir changé d'avis?
Et la majorité présidentielle. Absolument, je suis très heureuse de conduire cette liste à Paris. C'est un beau défi. Je pense que Laurent Saint-Martin est un candidat qui gagne à être connu et puis qui peut créer la surprise au mois de juin. Il a un vrai projet pour l'Île-de-France et il gagne vraiment à être découvert.
Bon, je ne sais pas si ce que vous allez répondre à ma question maintenant sera encore valable en juin, mais si vous êtes élue, Marlène Schiappa, vous quitterez le gouvernement ou vous cumulerez vos deux fonctions, votre mandat et votre poste au gouvernement?
D'abord, la personne est propriétaire de sa responsabilité au gouvernement, qui n'est pas un emploi et qui est par nature quelque chose qui n'a pas vocation à durer. Donc ça, c'est une réponse que seul le président de la République et le Premier ministre peuvent...
Oui, mais là, a priori, pour l'instant, s'il n'y a pas de remaniement, est-ce que vous, si vous êtes élu, vous quitterez le gouvernement ou est-ce que vous ferez les deux à la fois?
Mais moi, de mon propre chef, je n'entends pas quitter le gouvernement, mais comme je vous dis, je ne suis pas Premier ministre et pas président de la République. Ce n'est pas moi qui forme le gouvernement. Au terme de la Constitution, le gouvernement, il est formé par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Et donc, nous verrons ce que le Premier ministre et le président de la République décident. Je ne peux, hélas, rien vous dire d'autre. Je n'ai pas d'autres informations.
En tout cas, s'il se privait de vous, le Premier ministre, il se privait d'une ministre très active. Vous avez dit notamment vouloir mettre en place des quartiers sans relous. Écoutez ce qu'en disait Marine Le Pen, ici même, il y a une semaine.
Moi, je suis assez heurtée, j'avoue, par ce vocabulaire que je ne trouve pas à la hauteur de nos dirigeants. Cette espèce de faux vocabulaire Jones, je trouve ça critiquable. Et puis même sur le fond, c'est critiquable, parce qu'après tout, le harcèlement sexuel, les agressions que subissent les femmes, les jeunes femmes dans la rue, on ne peut pas dire que c'est uniquement le fait de relou. C'est le fait de délinquant.
Elle n'a pas un peu raison, c'est pas un peu léger comme approche, un relou et un délinquant, c'est pas pareil, c'est pas la même chose.
D'abord, vous savez, Marine Le Pen, à part être pas contente et critiquer l'action du gouvernement dans les médias, elle ne fait pas grand-chose sur le fond. En ce qui concerne le harcèlement de rue, nous avons, sur ma proposition, voté une loi en 2018 pour verbaliser le harcèlement de rue. Qu'est-ce que Marine Le Pen a proposé dans les débats pour cette loi? Qu'est-ce qu'elle a voté? Est-ce que vous le savez? Elle n'a pas voté. Elle n'est pas venue débattre, elle n'est pas venue travailler, elle n'est même pas venue voter la création de la verbalisation du harcèlement de rue. Donc maintenant, au cours d'une conversation type café du commerce, dire « Ah oui, non, j'aime pas le mot », et faire un débat sémantique, c'est pas à la hauteur des enjeux.
Derrière, vous regrettez ce mot des quartiers de relou ou pas?
Je le regrette pas du tout, parce que c'est ça qui a fait que vous, les journalistes, vous en avez parlé. Si je vous avais dit simplement « On va mettre 2000 policiers en civil qui vont faire des patrouilles, qui pourront augmenter les flagrants délits, créer avec le SSMSI du ministère de l'Intérieur un baromètre du harcèlement de rue, avec un mapping qui va nous permettre de faire de la répartition territorialisée, jamais vous ne m'auriez invité sur ce plateau.
Vous surjouez un peu, vous savez qu'au Café du Commerce, on entend et on fait quand même attention à ce qui se dit.
Mais j'adore les Cafés du Commerce.
On aimerait bien qu'ils rouvrent. À propos de Marine Le Pen, après son soutien à la Tribune des Généraux, vous avez dit qu'elle est désormais disqualifiée, elle ne peut plus devenir chef des armées. Elle vous fait tellement peur, Marine Le Pen, aujourd'hui?
Ah oui, moi j'ai peur de Marine Le Pen, mais j'ai pas peur de Marine Le Pen électoralement. J'ai peur des positions de Marine Le Pen et j'ai peur de ce qu'elle ferait si d'aventure elle était un jour au pouvoir. On voit bien là le vrai visage du Rassemblement National. C'est-à-dire que le Rassemblement National, c'est un parti de putschistes. C'est ça le vrai visage du Rassemblement National.
Dans sa réponse, elle dit soutenez-moi, mais on va par les voies démocratiques quand même.
Non, c'est pas du tout ce qu'elle dit dans sa première intervention. Et de quoi parlons-nous? Nous parlons quand même de quelqu'un qui veut, de personnes retraitées, mais qui veulent dévoyer le sens et l'honneur de l'engagement militaire. Qu'est-ce qui fonde l'engagement des militaires? C'est d'abord la neutralité, mais c'est surtout la loyauté. Et moi, je voudrais avoir une pensée pour tous les militaires qui, en ce moment même, au péril de leur vie, sont déployés sur les théâtres d'opérations, qui défendent les valeurs de la France partout dans le monde, dans des missions extraordinairement difficiles et périlleuses, et saluer l'engagement et la loyauté de ces militaires.
Mais là-dessus, tout le monde sera d'accord.
Non, tout le monde n'est pas d'accord, manifestement. Qu'une personne qui entend devenir présidente de la République, et donc chef des armées, méconnaisse et mécomprenne à ce point le sens profond et l'honneur de l'engagement des militaires, ça la disqualifie d'office pour exercer cette fonction-là.
Elle est dangereuse pour vous, Marine Le Pen ?
Encore une fois, oui, Marine Le Pen est dangereuse, mais pas, je ne dis pas elle est dangereuse électoralement.
Mais elle a sa place dans le jeu démocratique alors? Parce que si on va au bout, si vous dites qu'elle soutient des putschistes, est-ce qu'elle a sa place dans le jeu démocratique?
Mais moi, je suis en désaccord avec les positions de Marine Le Pen et du Rassemblement National, mais je ne fais pas partie des gens qui veulent interdire tous les partis politiques et toutes les organisations avec lesquelles ils sont en désaccord. Je pense qu'il faut dévoiler et démasquer les propositions de Marine Le Pen, qui se donne des apparences républicaine, bien sous tout rapport, dédiabolisée, respectable, etc. Et qui, en réalité, ne peut pas s'empêcher de se jeter sur le premier embryon de putsch venu pour lui apporter son soutien. C'est quand même très préoccupant.
Vous avez aussi lancé, Marlène Schiappa, des états généraux de la laïcité la semaine dernière. Et visiblement, ça a fait tousser pas mal de monde dans la majorité, jusqu'au chef de l'État. Et beaucoup se disent, si elle fait ça, c'est que le job n'a pas été bien fait avec la loi sur les séparatistes, que cette loi n'est pas suffisante, que le compte n'y est pas.
Alors d'abord, il y a des propos faux qui ont été attribués à tort au président de la République. Donc je tiens à dire
que c'est important. Ce sont des propos rapportés, mais il y a aussi des gens dans l'entourage, dans le gouvernement, parmi les conseillers qui racontent ça en off, qui nous racontent
alors,
ces choses-là.
Alors non, moi ce que je veux vous dire, c'est que je vous invite à regarder le démenti de l'Élysée à cet égard qui a été fait auprès de Marianne disant que le président de la République n'avait jamais tenu ses propos.
C'est normal, c'est trop il ne va facile. Pas dire le contraire.
C'est trop facile, bien sûr que si, le président de la République est quelqu'un qui assume toujours les propos qu'il tient de surcroît devant ses ministres. C'est trop facile de croiser quelqu'un et de déformer des propos par malveillance pour attaquer un projet ou une personne. Et donc je tiens à ce qu'on rappelle en préambule ce démenti émanant de l'Élysée qui a été fait auprès de Marianne, d'une part.
Le préambule étant acté sur le fond.
C'est un préambule important. Sur le fond, nous sommes au travail, évidemment, pour défendre la laïcité d'arrache-pied, tout le gouvernement. Et le fait de faire un débat entre des intellectuels au CNAM pour donner un coup d'envoi des états généraux de la laïcité ne signifie évidemment pas que le travail n'ait pas été fait au demeurant sur d'autres sujets.
Donc c'est en plus d'eux.
Évidemment, c'est surtout pour mettre en place des choses concrètes. Par exemple, nous devons déployer le calendrier de formation. Dans le projet de loi pour les principes républicains, dit séparatisme, avec Gérald Darmanin, avec Amélie de Montchalin et d'autres ministres, nous avons fait voter l'obligation de nommer des référents dans toutes les administrations et de former les agents publics. Et bien désormais, nous sommes en train de déployer ce calendrier de formation des agents publics. Qui va le faire? Où? Comment?
Alors,
quel budget?
Vous défendez ça avec beaucoup de conviction, Marlène Schiappa, mais la CFDT, par exemple, a demandé d'arrêter de faire de la laïcité un objet d'agitation médiatique permanent. Est-ce que ce n'est pas votre talon d'Achille, ça, ce besoin de faire de la com', de faire, je le disais, un coup tous les trois jours?
Je ne crois pas du tout que ce soit de la com, en fait. Je pense qu'on parle là de conviction. Qu'est-ce que c'est que la laïcité ? C'est une valeur de la République profonde, importante. Vous savez, 76% des Français disent que la laïcité doit être mieux défendue, mieux portée.
Oui, mais on sort de semaines et de semaines de débats avec le projet de loi sur le séparatisme là-dessus. Ça a été un sujet dont on a beaucoup parlé, débattu, examiné à l'Assemblée, au Sénat.
Là, pardon, mais là, vous me parlez déjà d'un sujet qui est vieux maintenant d'une semaine, et on sait qu'en temps médiatique, c'est très long. Et vous-même, vous me posez la quatrième question sur ce sujet en déplorant que j'en fasse un objet d'agitation médiatique.
Non, j'essaie de comprendre votre logiciel.
Si vous voulez, on peut parler d'un autre sujet et tourner la page de sujet.
Quand vous prenez position pour dire que vous verriez bien Cyril Hanouna co-présenter le débat d'entre-deux-tours de la prochaine présidentielle. Non, mais est-ce que c'est vraiment le sujet du moment ? Est-ce que c'est pas ça votre quête insatiable du buzz ?
Alors moi, je vais vous répondre parce que là, je vais vous répondre très très clairement sur le fond.
Et je porte pas le jugement moi sur le fond. Chacun fait ce qu'il veut et pense que qui veut peut animer le débat d'entre-deux-tours.
D'où ça sort ? Ça sort d'une conversation téléphonique que j'ai avec un journaliste il y a des mois de cela. Nous avons une conversation, il me pose un certain nombre de questions sur Cyril Hanouna, je réponds involontiers à ces questions, je raccroche et je n'y pense plus. Et moi, pour tout vous dire, vendredi, j'étais en immersion avec les pompiers de Paris. Et au moment où j'étais en intervention avec les pompiers de Paris, auprès d'une dame de 82 ans qui était en arrêt cardiaque et qui avait la réanimation cardiaque de cette dame, à ce moment-là, j'apprends ce qui vient de se passer à Rambouillet et qu'une policière, Stéphanie, et on adresse évidemment un message de soutien
non
à
mais
ses
ça
proches.
D'accord, bien sûr.
Non, mais il n'y a pas de ça d'accord,
ben
pardon.
Si.
C'est quand même ce qui est important. Et moi, en sortant de ça, j'ai une de mes conseillères qui me dit, j'ai beaucoup de journalistes qui m'écrivent pour me demander si vraiment tu souhaites que Cyril Hanouna anime le débat d'entre-deux-tours. Pardon, il y a une échelle de gravité entre un propos tenu au téléphone
oui,
avec des journalistes
savez,
il y a
vous connaissez
mois.
Parfaitement le système médiatique, vous savez parfaitement qu'en tenant ce genre de propos, ça va être pris, qu'on va vous interroger là-dessus, et ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à d'autres sujets.
Excusez-moi,
vous êtes pas naïve, Marlène Schiappa.
Encore une fois, vous choisissez vos questions. Je viens là auprès de vous, je vous explique qu'il y a un travail des pompiers de Paris qui est fondamental contre le Covid. Vous choisissez de me relancer sur Cyril Hanouna.
Oui, parce que c'est ma question et que vous faites diversion.
Oui, mais c'est votre question. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi est-ce que c'est votre question ? On est dans une émission d'actualité. Vous choisissez de m'interroger quatre fois sur Cyril Hanouna.
Non, parce qu'on a parlé de la vaccination. C'est le principe d'une interview. En général, le journaliste vient avec ses questions et la personne qui est invitée a la possibilité de répondre.
Vous m'interrogez en me reprochant le choix de vos questions. Soto, je n'ai pas choisi vos questions, je ne suis pas votre rédactrice en chef. Donc si vous voulez, nous pouvons parler par exemple de la naturalisation des travailleurs Covid.
On pourra.
Plus de 2000 personnes qui sont des travailleurs étrangers qui ont travaillé en première ligne pendant la pandémie. Eh bien, j'ai décidé d'accélérer avec une circulaire leur naturalisation. Ce sont maintenant nos compatriotes. Ils sont désormais des citoyens français. Il y a un travail de fond phénoménal qui est mené au ministère de l'Intérieur et au ministère délégué chargé de la citoyenneté. J'ai rien contre le fait de parler de temps en temps aussi de ce travail phénoménal.
Merci beaucoup à vous. Je ne sais pas comment ça se passe au gouvernement s'il vous donne les réponses, mais nous, le rédacteur en chef, ne donne pas les questions pour les interviews.
Bon.
Ça se passe plutôt très bien. Merci à vous, Marlène Schiappa, d'être venue ce soir.
Au revoir.
Au revoir. Dans un instant, c'est lui, c'est l'œil de Philippe Cavrivière. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir, ça va.
Vous allez très bien et vous vous allez nous parler de l'espoir qu'on a perçu dans les mots du président. Il a évoqué donc un déconfinement à la mi-mai.
Et oui, la question qu'on se pose tous désormais, Thomas, c'est quand la mi-mai ? Ça tombe quand la mi-mai cette année ? On est comme des mômes relous. C'est dans combien de dodos la mi-mai, Emmanuel ? C'est plus le 15 mai ou le 16 mai la mi-mai ? Ou le 17 ? C'est pas le 18 mai quand même.
Mmh.
On le sait tous, on va se retrouver avec une mi-mai qui va tomber fin juin, début juillet.
Il n'y a plus de saison, comme dirait Peggy Broche. Allez, petite page de pub, le rappel des titres et on vous retrouve, Philippe.
Thomas Soto, RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel.
Et Marlène Schiappa appelle ce soir sur RTL tous ceux qui ont participé à la fête sauvage organisée ce week-end au Buttes-Chaumont à Paris à se faire dépister. La situation sanitaire reste grave, dit la ministre, alors que la justice a ouvert aujourd'hui une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. Pour ce qui est de la vaccination, pas question de l'élargir, pas pour l'instant. Olivier Véran précise toutefois qu'aucune dose ne doit être jetée. Les restaurateurs parisiens, eux, vont bientôt devoir payer leur terrasse Covid. Ces terrasses installées en mai dernier, lors du premier déconfinement, c'est ce qu'annonce la mairie de Paris. Et puis Emmanuel Macron assistera jeudi aux obsèques de Stéphanie Monfermé, cette fonctionnaire de police assassinée vendredi à Rambouillet. Un hommage national lui sera rendu vendredi par Jean Castex.
La météo, il est où ?
Il est où le soleil ?
Ben oui.
Vous voulez pas chanter ?
Ah, vous allez chercher.
Ah oui, mais non. Il sera là le matin, déjà.
Ah,
juste,
très bien.
Mais entre la région nantaise, l'Île-de-France, le Grand Est, mais juste le matin. Après, on oublie parce que ça va se couvrir. Ce sera déjà couvert d'ailleurs partout ailleurs dès le début de journée. Quelques averses dans la partie sud et sur les côtes de la Manche. Et en journée, des nuages quasiment partout, des averses ponctuelles sur la majeure partie du pays, des averses plus fréquentes, voire orageuses sur l'Est. Et puis sur la façade atlantique, on retrouvera quand même quelques éclaircies. Le tout sous des températures encore fraîches le matin, surtout au nord, et l'après-midi de 13 à Cherbourg, à 23 à Strasbourg, 18 à Toulouse et 21 à Paris.
Merci Peggy. L'œil de Philippe Cavrivière. Je le répète car c'est un bonheur bi-hebdomadaire. L'œil de Philippe Cavrivière, le mardi, le jeudi dans RTL Soir. Philippe, vous vouliez revenir pour commencer sur la 93e cérémonie des Oscars. Vous l'avez trouvé comment ?
Écoutez, c'est très différent des Césars. Là-bas, les actrices mettent des grandes robes somptueuses et les gardes. Personne ne se fout à poil en insultant la ministre de la Culture. Ils sont bizarres, c'est ricain, non ? Bon, écoutez, c'est comme ça. Il faut respecter les autres cultures.
Ouais, hein. Ouais, ouais. Je crois que vous voulez dire aussi un mot de l'auteur Florian Zeller, qui a donc reçu l'Oscar du meilleur scénario adapté pour The Father.
Oui, parce qu'on nous confond souvent tous les deux.
Oui.
On m'a souvent pris pour Florian.
David Guetta, Zeller, plutôt, non ?
Aussi. Et réciproquement, c'est vrai que Florian lui dit, vous êtes Philippe Cavrivière. Bon, c'est vrai qu'on est tous les deux auteurs, on est tous les deux blonds.
Oui. Oui.
Bon, on a tous les deux la petite quarantaine rugissante. Bon, il a une femme mannequin. J'ai un truc qui s'apparente à une femme. Il a un Oscar et un Molière. J'ai ma deuxième étoile et mon BAFA.
Ah, c'est pas mal.
Oui, en fait, on n'a pas grand-chose à voir. Hein. Il a le numéro d'Anthony Hopkins. J'ai même pas le numéro d'Antonin André. Bref, vous savez quoi ? Ils nous emmerdent, les Thomas Pesquet et les Florent Zeller, à tout réussir. Ça va, oui, de rabaisser les gens avec votre talent et votre réussite ? Prétentieux, va. Heureusement qu'il y a des gens comme vous, Thomas.
Oh bah tiens !
La normalité, et j'ai même envie de dire, la médiocrité, ont le droit d'exister et de parler à ce micro.
Oui.
Merci pour ça,
si
Thomas.
Si je peux rendre service, c'est moi qui vous remercie, Philippe. Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer ont visité une école hier et une petite fille a interpellé le président à propos du couvre-feu qu'elle trouvait énervant et lui a répondu « On va essayer de le décaler un peu car 19h, c'est tôt. »
Non, c'est pas vrai. Mais ça voudrait dire qu'on va peut-être avoir la permission de 20h. Oh, 20h ! Oh, c'est presque une nuit blanche, il va falloir en boire du Red Bull pour tenir jusque-là. En tout cas, je constate que cette petite fille a réussi à faire parler notre président. Elle a fait mieux que pas mal de journalistes. C'est pas facile de faire parler les politiques, hein, Thomas.
C'est vrai.
Elle mérite sa carte de presse. D'ailleurs, on l'a retrouvée, cette petite fille qui a interrogé Macron, et je crois qu'elle avait un petit mot pour vous, Thomas.
Salut, Thomas. J'ai que 7 ans et j'ai réussi à faire parler le président. Je t'ai trop mis à l'amende, Soto. Et Éric Brunet, je te fais bouffer tes lunettes. Et Nathalie Saint-Cric, rentre chez ta mère.
Ils sont violents, la nouvelle génération. C'est la génération qui attaque ta
mère. C'est
peut-être.
C'est presque.
Ils respectent plus rien, les gamins. Moi, je les trouve trop matures, vous voyez. D'ailleurs, sa remarque était quand même étrange. Que veut faire une enfant de CE1 dehors après 19h ? Je rappelle que les boîtes de nuit sont fermées.
Bon. On va parler d'un autre sujet d'actualité, parce que c'est aussi malheureusement l'actualité, l'attentat de Rambouillet. Ouais. Gérald Darmanin, merci pour les transitions que vous me faites faire. Ouais, Gérald Darmanin et Jean Castex évoqueront un projet de loi sur l'antiterrorisme demain au Conseil des ministres.
Dis donc, ils vont être bien emmerdés les terroristes avec ce nouveau projet de loi. Les gars, ils vont dire, je voulais faire un attentat. Paf, ils ont été plus rapides, ils ont dégainé un projet de loi. J'annule. Écoute, je vais faire des crêpes. Voilà. C'est fou, notre capacité à lutter contre le terrorisme pile après l'attentat, toujours. C'est aussi con qu'un gardien de but qui plongerait du bon côté, mais une fois que le ballon serait au fond des filets. Quoi. C'est spectaculaire, mais ça sert à zebber quand
Pardon
même. Hein.
Ça sert à
zebber, à Wallou.
D'accord, très bien. Bon, pour finir, on va prendre un peu de hauteur et on va faire un petit tour du côté des étoiles avec Thomas Pesquet, votre ami.
Thomas Pesquet, le Florian Zeller de l'espace. Thomas Pesquet, qui est natif de Rouen, ce qui explique en grande partie sa vocation. C'est vrai que quand tu es à Rouen, tu as forcément très envie de te barrer le plus loin possible. Et vous savez que Rouen, c'est la ville.
C'est les Rouennais. Okay.
Vous savez que Rouen, c'est la ville qui se rapproche le plus des trous noirs au niveau de l'urbanisme.
Oui, c'est ça.
On les embrasse.
C'est toujours pareil. Il met une baffe et après il embrasse. En tout cas, Thomas Pesquet est devenu en quelques années un des Français préférés du pays, notamment grâce à ses photos qu'il met sur les réseaux sociaux. Ça ne vous a pas échappé, vous qui mettez votre chat tout le temps.
C'est ça. Oui, Thomas, finalement, Thomas Pesquet n'est pas que spationaute. Il est aussi un petit peu notre influenceuse de l'espace. J'ai maté son compte Insta. C'est une Caroline Receveur en orbite, quoi. En fait, il bosse, vous croyez, entre deux photos, Toto ? Vous pensez que Armstrong et Buzz Aldrin, ils passaient leur temps à mettre des stories sur Instagram ? Je ne crois pas, non ? Non, ça se trouve, le seul but de Thomas Pesquet, c'est de faire des photos pour son futur bouquin.
Oui.
La Terre vue d'encore plus haut qu'Yann Arthus Bertrand, aux éditions dans le cul moustache.
Ah bah oui, c'est une très très bonne maison d'édition. C'est un petit peu jaloux. Bon, en tout cas, moi je vous dis, il nous fait rêver, Thomas Pesquet.
C'est vrai. Alors, je vous accorde, et en plus, sa mission n'est pas sans risque. Niveau santé, j'ai noté surpression artérielle, atrophie musculaire, décalcification du squelette, Ah non, pardon, ça c'est la liste des effets secondaires d'AstraZeneca. Non, c'est autre chose. Non, puis il y a d'autres risques. On va se dire les choses. Spationaux, c'est quand même la profession numéro un pour être cocu. Ah bah c'est comme les footballeurs qui se font cambrioler pendant un match. Sauf là, le match dure 6 mois. La femme de spationaute, elle sait a priori que son mari ne va pas rentrer à l'improviste.
Ah
oui. Ça fait partie des risques du métier. Cela dit, Thomas, profitons de Thomas Pesquet, parce que vu que les enfants en 2021, ils font des années scolaires de 12 jours max, on ne se prépare pas des générations de Florian Zeller ou de Thomas Pesquet.
Ah ouais ? Parce que toi, t'es surdoué, Philippe.
Ouais, on respecte plus rien, les mômes. Je vous le dis.
Je comprends mieux le texto que vous m'avez envoyé ce week-end. Est-ce que tu aurais le numéro de la compagne de Thomas Pesquet ? Dis non. Je me demandais pourquoi vous vouliez ça.
Donc, la réponse, il faut y penser
non,
à ce risque.
Non, je ne l'ai pas. Elle a bloqué votre numéro.
Bah, j'imagine
façon.
Bien, hein, comme beaucoup.
Demain, c'est qui ?
Valérie Tréhère-Valère.
Très bien, spontané.
Je vous en fais.
Ah non, pardon, elle n'est pas là demain. Parce que demain, on a Édouard Philippe et Gilles Boyer qui sont là.
C'est bien aussi.
Donc, Édouard Philippe sera là, il réagira sans doute à votre chronique aussi.
J'imagine
peut-être
bien.
Un peu moins chaleureux que Valérie. Mais... Merci beaucoup. Vous pourrez poser vos questions à Édouard Philippe, j'en profite, au 32-10 demain. Merci Philippe. Elle s'appelle Mimi Hegel et elle est championne du monde dans la catégorie Oui, je suis féministe et ça ne m'empêche pas d'aimer mon chéri, tout ça n'est pas si grave. Elle a d'ailleurs fait un livre, Ils vécurent heureux, guide de survie d'une féministe en couple hétérosexuel. Mimi Hegel est dans RTL Soir tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto. Thomas Soto,
RTL Soir.
Son livre, publié chez Hugo Doc, sortira après-demain. Il s'appelle « Ils vécurent heureux, guide de survie d'une féministe en couple hétéro ». Mimi Hegel est donc l'invitée d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Mimi Hegel.
Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invitée.
Et déjà, merci de dédramatiser un peu le sujet. Merci d'avoir choisi de nous faire un peu sourire avec un sujet dont on a parfois l'impression qu'il tourne à la guerre des sexes. Ça vous est venu d'où, cette idée de faire un guide de survie, comme si c'était la guerre ?
De ma vie, principalement, car je suis moi-même une féministe hétérosexuelle, donc je suis amenée à relationner avec des hommes, comme on dit. Et c'est aussi le cas de beaucoup de femmes autour de moi et de beaucoup de femmes que j'ai pu côtoyer via le magazine dont je suis la rédactrice en chef. Et j'ai fini par constater qu'il y avait souvent une disparité entre les convictions qu'on a et l'éducation qu'on peut faire, où on prend conscience des normes genrées avec lesquelles on a grandi, et des stéréotypes sexistes qui continuent à exister, et on lutte contre et on milite contre. Et on rentre chez soi et on ramasse les chaussettes de notre mec. Et au bout d'un moment, on se dit, mais quand même, c'est fou hein, d'avoir autant d'opinions et de continuer à ramasser les chaussettes de notre mec.
Mais peut-être que parfois, il ramasse les vôtres aussi, non ?
Parfois, il ramasse les nôtres. Ah ouais. Auquel cas, peut-être qu'il n'y a pas besoin de lire ce livre. Mais pour toutes les fois où il ne les ramasse pas assez, peut-être que ce livre va pouvoir être utile. L'idée, bon, c'était vraiment d'offrir des conseils pratiques, mais effectivement pas trop dramatiques.
Et vous ne menez pas une guerre contre les hommes. Vous n'êtes pas comme Alice Coffin qui, dans son dernier livre, parlait de son mépris, disait il faut à notre tour les éliminer. Ce n'est pas votre,
c'est
pas
votre position. Je pense que c'est une vision assez caricaturale du discours d'Alice Coffin, pour être honnête.
Mal au féminisme, ça, ou pas ?
Non, il y a plein de féminismes, en fait. Il y a plein de féminismes différents et il y a plein de discours qui ont leur place, à la fois les plus engagés et aussi, on va pas se mentir, les plus... Il y a un côté incisif dans ce qu'elle fait, Alice Coffin, il faut pas tout prendre au premier degré. Et dans un féminisme que moi, j'essaye de porter à mon échelle, qui est un féminisme peut-être déjà plus accessible,
plus apaisé, peut-être, non ?
En tout cas, moi, j'ai cette chance de ne pas être en colère, dans le sens où je suis révoltée par les inégalités. Mais la colère, ce n'est pas une émotion qui me fait avancer, c'est une émotion qui me draine beaucoup d'énergie. Donc je choisis plutôt d'aller vers le positif.
Après, il y a le féminisme à l'épreuve de la vie, Mimi Hegel. Quand un garçon vous invite, qu'il fait le premier pas, qu'il paye l'addition, qu'il vous tient la porte, vous refusez ? Vous dites « hop, 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 pas de ça entre nous ?» Comment ça se passe ?
Non, par contre, je vais plutôt, si, dans le cas de l'addition, je vais proposer de payer le prochain verre, du coup.
Ouais. Ça, c'est parce que vous voulez le revoir, c'est parce qu'il vous a séduite.
Oh, il n'y a pas besoin de payer un verre à un garçon pour le revoir, vous savez. C'est quand vrai. On a mon charme, finalement, pas besoin. Je ne refuse pas qu'on me tienne la porte, je ne refuse pas qu'on m'invite à un rendez-vous galant. Par contre, j'explique dans mon livre que c'est aussi l'égalité de se mettre en tant que femme à faire le premier pas et à ne pas attendre que les hommes viennent nous chercher, par exemple. De ne pas s'attendre à ce qu'un garçon paye forcément l'addition quand on est en rendez-vous. Toutes ces petites mécaniques qu'on a tellement intégrées qu'elles nous paraissent évidentes et même indispensables à la séduction, alors qu'au final, il est possible de faire autrement dans une démarche d'égalité.
Mais alors, il faut vivre à deux, il faut avoir un compte commun, il faut se marier. Est-ce que ces questions-là interrogent le féminisme ou est-ce que parfois le féminisme doit rester à l'entrée ?
Le féminisme répète depuis toujours que le privé est politique. On ne peut pas séparer l'égalité de ce qui se passe dans nos foyers. Donc forcément, quand on parle de mariage, de vie commune, de compte en banque, d'argent, il faut aussi le voir par un prisme d'égalité entre les genres. Et en plus, c'est des questions qui sont de plus en plus médiatisées. On a beaucoup parlé de la charge mentale, là, depuis quelques années, qui a été mise sur le devant de la scène par la dessinatrice Emma. La charge mentale, c'est une question de l'intime.
Ouais.
On n'a pas beaucoup de mouvements politiques qui parlent de qui ramasse les chaussettes. Mais quand on ramasse les chaussettes, tout le temps, on y passe beaucoup de temps qu'on pourrait passer
passer à faire autre chose et ça n'aide pas à se sentir valorisé non plus.
Et donc quand on fait une liste de courses à la maison chez vous, il faut la rédiger en écriture inclusive ou pas?
Vous savez que je peux l'écrire en écriture inclusive sans point médian.
Ouais, mais est-ce que vous devenez hargneuse si jamais Valentin, c'est votre amoureux?
Tout
je crois,
à
Valentin,
fait, je l'embrasse.
S'il écrit pas en écriture inclusive, il est...
Très peu. Je suis peu hargneuse dans la vie. Ouais. Mais vous savez, beaucoup de féministes sont peu hargneuses. Et peut-être que celles qu'ils sont ont des raisons de l'être aussi.
Vous savez qu'il y a des gens qui sont... des hommes qui sont très féministes.
Et
moi,
oui,
je suis très féministe et qui ont un peu peur de ces féministes un peu radicalisées là, qui font qu'on a l'impression qu'on a affaire à des adversaires. C'est... Ça
je
vous parle ou pas
toujours,
ça
toujours, mais ça marche dans les deux sens. Je pense qu'il faut avoir une démarche d'empathie. Moi, par exemple, dans ce livre.
Enfin, quand je dis un peu peur, ça nous saoule en fait.
Bah, en fait, si ça vous saoule, enfin désolé, ça nous saoule aussi les inégalités et je pense
non,
que ça les
c'est pas les
aussi,
inégalités.
Quoi.
Non, vous n'avez pas compris. C'est pas les inégalités qui me saoulent. C'est cette espèce de d'affrontement qu'on met en scène et que mettent en scène certaines féministes, sans doute à cause aussi des mecs, hein, mais c'est compliqué quand même, la vie c'est pas un match, c'est pas une confrontation permanente.
Moi je définis pas mon rapport aux hommes en termes de confrontation et de match, et je pense que c'est le cas de beaucoup de féministes, c'est peut-être aussi pas celle que les médias mettent le plus en avant, parce qu'en fait l'indignation ça fait vendre et ça fait du clic.
Ouais.
Je dirais aux hommes qui ont peur des féministes énervées, c'est pour ça que je parle d'empathie, essayer de comprendre d'où vient cette colère. D'où vient cette rage et qu'est-ce qu'elles essayent en tout cas et qu'est-ce qu'on essaye collectivement en tant que féministes très diverses d'atteindre, c'est l'égalité, c'est pas une forme de suprématie. Et malheureusement, il y a des gens pour qui la démarche un peu empathique que moi je vais essayer d'appliquer, elle va pas marcher. Enfin, il y a des moments, il y a des mecs, leur dire gentiment, ça ne marche pas. C'est la réalité. Donc il faut qu'il y ait une pluralité de féminisme pour que tout le monde s'y retrouve au final.
Bon, Valentin, il en pense quoi de tout ça?
Bah, vous l'inviterez pour qu'il vous le dise, mais il est très fier de moi.
Il est très fier de
il
vous
me soutient beaucoup. Il est actuellement en train de me regarder. Il a lancé le direct il y a un quart d'heure pour être sûr de ne pas me rater. Et il est lui-même féministe. C'est possible, comme vous l'avez dit vous-même, d'être un homme féministe, d'être un homme engagé pour l'égalité.
Et de ramasser ses chaussettes et celles des autres aussi.
Et de ramasser ses chaussettes.
Sans en faire un sujet forcément éminemment politique. Se pose aussi, et vous l'abordez dans ce guide, la question de la sexualité. C'est quoi être féministe dans sa sexualité?
Je pense que c'est, comme dans tout, c'est déjà s'interroger sur qu'est-ce qui vient de nous et qu'est-ce qu'on nous a appris, qu'est-ce qui nous plaît vraiment, qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien et qu'est-ce qu'on a peut-être récupéré de...
Alors, les codes qu'on nous a transmis.
Voilà, ouais. On parle beaucoup de la pornographie, mais même avant ça, il y a beaucoup de dynamiques. La sexualité est quand même rarement montrée avec beaucoup de consentement dans beaucoup de productions culturelles qui ne sont pas forcément du X. Pour moi, une sexualité féministe, c'est une sexualité qui est en accord avec soi-même et qui, bien sûr, évidemment, mais comme toutes les sexualités saines, doit se baser sur le consentement. Mmh. Donc, c'est pas une question de type d'acte. On peut être féministe et aimer des actes qui peuvent avoir l'air dégradants ou sexistes, par exemple, au lit, tant que c'est dans un contexte de roleplay et qu'on comprend pourquoi on les aime et qu'on comprend que la personne...
Un contexte
qui
de
nous...
quoi, de...
De roleplay, pardon, de jeu de rôle
au
lit. C'est-à-dire qu'on joue un rôle et on sait très bien que la personne qui, par exemple, je sais pas, nous met une fessée, ne nous veut pas de mal et nous respecte en tant que personne dans la vie. Mais il faut d'abord faire ce chemin, je pense, d'auto-analyse de qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui me fait me sentir respectée pour pouvoir après communiquer avec son partenaire et avoir la meilleure vie.
Il faut se parler, il faut se respecter et il faut lire votre livre, hein, Il est vécu heureux, guide de survie d'une féministe en couple hétéro. C'est à la fois parfois souriant, ça nous fait réfléchir aussi, je le reconnais.
Merci.
Et c'est publié chez Hugo Doc, ça sortira jeudi. Puis au passage, je précise que vous êtes aussi la rédactrice en chef du site mademoiselle.com. Merci Mimi Hegel d'être venue ce soir dans RTL Soir. Alors que certains constructeurs ont décidé de brider la vitesse de leur voiture, un Renault en l'occurrence à 180 km/h, Julia Molcou, elle arrive pied au plancher, c'est la culture de l'actu.
RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Julia Molcou pour la culture de l'actu. Bonsoir Julia.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Renault a donc annoncé qu'il briderait désormais ses voitures neuves à 180 km/h, à vitesse maximale atteignable. Et ce soir, eh bien, la vitesse automobile est donc au cœur de votre culture de l'actu.
C'est une voiture géniale, qui jamais la route, elle est cramponnée à la route. La mienne se conduit comme un jouet, enfin, de doigts comme un vélo. C'est une voiture très sûre finalement, si on sait la conduire. Il y a besoin de gaieté, de vacances, d'insouciance, de vitesse.
Françoise Sagan ne parlait pas de Renault, mais bien de Ferrari. Elle était une grande passionnée d'automobile depuis son plus jeune âge. Et avec ce que va lui rapporter Bonjour Tristesse, eh bien Françoise Sagan s'offre sa première Jaguar, une XK120. Puis viendront une Gordini type 24S, plusieurs Aston Martin et bien sûr cette Ferrari 250 GT Spider California. Et vitesse était sans doute l'un des mots préférés de Sagan. Il est même le titre d'un chapitre de son recueil avec mon meilleur souvenir. Et voilà ce qu'elle écrivait.
La vitesse n'est ni un signe, ni une preuve, ni une provocation, ni un défi, mais un élan de bonheur.
La vitesse, comme permettant de sortir du lot, d'être le premier et d'arriver avant les autres, parfois trop tôt, beaucoup trop tôt.
Senna prend le mur.
Oh mon Dieu.
au virage Tamburello.
Pourquoi la vitesse nous attire-t-elle autant, nous séduit-elle autant? Et depuis quand la voiture et son pilote sont-ils devenus les héros de notre mythologie? Ayrton Senna est mort le 1er mai 1994 à 290 km/h et Asif Kapadia a consacré un film à ce dieu de la pole position, film dont on entendait un extrait et que je vous recommande chaudement. Son deuil a largement dépassé les seuls amateurs de Formule 1, tant la personnalité d'Ayrton Senna exerçait une fascination. La victoire ne le comblait pas, il voulait toujours plus. Mais plus, à la fin, c'est quoi?
On n'a rien de mieux à dire que ça.
Alors attendez...
Queen, don't stop me now. Et quand on pense vitesse et cinéma, on pense évidemment à James Dean.
Et à cette scène mythique de la fureur de vivre.
Hé, hey, Toriador, elle donne le signal. Il faut se diriger vers le bord de la falaise. Et le premier qui saute est un dégonflé. D'accord ?
James Dean découvre les courses automobiles lors du tournage de La Fureur de Vivre en 54. Et un an plus tard, c'est justement en voulant rejoindre une compétition que James Dean se tue au volant de sa Porsche 550 Spyder. Il n'avait alors que 24 ans. C'est là qu'on voit que les
clubs manquent. Il y a de la bonne musique chez vous, hein, disons, ouais.
Aérodynamique de Daft Punk, sorti en 2007.
Excellent.
Et ils ne sont pas les seuls, hein. Vous vous en doutez, à avoir chanté La Vitesse. Alain Bachung et Serge Gainsbourg ont coécrit un album ensemble, vous le saviez? C'était en 81, ça s'appelle Play Blessure. Et sur cet album, on trouve C'est comment qu'on freine. Alors Serge Gainsbourg
c'est
a souvent...
Je voudrais sortir de là.
Ah ouais.
Bon, Serge Gainsbourg a souvent parlé de voiture et de vitesse dans ses chansons. Pourtant, il laissait entendre qu'il n'avait pas le permis.
On se fait des
Ford Mustang.
Et on embrasse les plats.
Et on trouve assez peu de documents qui témoigneraient d'une véritable passion de Gainsbourg pour la vitesse à moto. Pourtant, en 67, il écrivait pour Brigitte Bardot cette chanson devenue mythique.
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson.
Bon, mais celle-ci, qu'il écrit en 73 pour Jane Birkin Kawasaki, vous la connaissiez ?
Mécanique.
Vous la connaissez celle-là ?
Pas du tout.
Ben voilà. Sur l'album Audi Douda.
Vous dites bien en anglais Audi Douda.
Audi Douda.
Franchement, c'est des victoires de la musique ce soir, votre chronique.
Bah tant mieux.
Mais quand même.
Oh oui.
Freddy, il est là, Freddy Mercury ?
Bah oui.
J'ai l'impression qu'on va être à la bourre pour la météo.
Non. Croyez ?
Ça a été classé comme la chanson qui met les gens le plus de meilleure humeur de toute l'histoire.
Donc on écoute jusqu'au bout.
Si c'est vous qui le demandez. Alors Peggy, demain, quel temps va-t-il faire?
Eh bien écoutez, il y aura beaucoup de nuages. Mais surtout au sud le matin, au nord de la Loire, ça reste.